France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Fignan est en majesté. Attention à cette commune, elle nous tend un piège de prononciation. Ça se prononce Fignan, mais ça s'écrit F-I-N-H-A-N. Nous avons parlé déjà mardi de ce village du Tarn-et-Garonne parce qu'un musée singulier y est installé. Un musée qui collectionne et expose des vinyles, des affiches de concerts, des fanzines, des instruments, de précieuses archives liées à la musique, donc. Et aujourd'hui, c'est à nouveau cette commune qui est à l'honneur dans les carnets, car un festival de musique y est organisé, des concerts chez l'habitant qui rencontre, vous l'entendrez, un très joli succès. Le Tarn-et-Garonne est à l'honneur toute la semaine dans les carnets de campagne, comme dans le jeu des 1000 euros que vous retrouvez dans un quart d'heure. Mais d'abord, on ouvre le journal. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Nous avons rendez-vous avec Village dans les carnets de campagne à chaque nouvelle parution de ce magazine. Bonjour Sylvie Le Calvez.
Bonjour Dorothée.
Directrice de la publication du magazine Village en duplex depuis le studio de Ici Normandie. Alors le numéro de printemps vient de sortir puisque votre magazine vit au rythme des saisons et vous proposez un dossier sur les épiceries rurales. Le constat de départ est le suivant. En France, plus de la moitié des communes n'ont aucun commerce. La désertification commerciale fait des ravages dans les campagnes et face à cela, eh bien des citoyens se mobilisent.
Oui, ça a changé, hein. Effectivement, ces dernières années, on se souvient d'une période pas si lointaine, il y a 15-20 ans, où les maires essayaient absolument de trouver des gérances pour les épiceries qui s'arrêtaient, et puis il y avait un gérant qui arrivait, et puis parfois, malheureusement, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, eh bien, à nouveau, l'épicerie était vacante. Aujourd'hui, la dynamique change, c'est-à-dire que plus ça va, plus on voit des initiatives collectives, issues de citoyens, qui reprennent l'épicerie, alors sous une forme un peu différente avec beaucoup de producteurs locaux et de production locale, donc hein, des produits du territoire, avec aussi d'autres activités souvent à côté. On voit même parfois des ateliers tricot ou bien sûr des spectacles le soir quand l'épicerie est fermée dans le même lieu. Mais en tout cas, ça a vraiment beaucoup changé et les maires maintenant font plus appel à des collectifs d'habitants, parfois 50, 70, une centaine, pour rouvrir l'épicerie.
Alors le reportage d'Axel Puig montre la diversité des statuts possibles pour une épicerie rurale. Et il évoque notamment le modèle participatif dont on parle souvent dans les carnets de campagne, ces magasins dans lesquels il faut en fait travailler un peu pour avoir le droit de faire ses courses.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, en général, ça peut aller jusqu'à un équivalent temps plein hein, de bénévolat fait par l'ensemble de la dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine de bénévoles ou d'associés dans une société coopérative d'intérêt collectif. Hein, souvent, on est en association ou en société coopérative où on donne du temps. Ça peut être 2 heures par mois, par exemple, hein, comme à Tela dans le Tarn, une commune de 500 habitants qui a ce principe où, effectivement, on adhère à l'association et on donne 2 heures par mois. C'est comme ça, c'est dans le contrat, pour aller mettre en rayon, négocier avec les producteurs, et c'est ça aussi qui permet un modèle économique de fonctionner.
Alors évidemment, ce reportage donne pas mal d'exemples, et notamment le comptoir des cocottes dans le Loir-et-Cher. Joli succès, hein, puisque désormais l'association gère 2 épiceries et 1 boulangerie.
Tout à fait, on est à Thoré-la-Rochette, hein, c'est une commune de 800 habitants dans le Loir-et-Cher, on est dans le Vendômois, et effectivement, là encore, grâce à la mobilisation des bénévoles, on a pu ouvrir une épicerie, puis effectivement une deuxième dans un village à côté à la demande d'un élu local voisin, et une boulangerie dans le premier village, tout ça sous forme collective. Hein. C'est une sorte de... En fait, les deux personnes à l'origine de ce projet avaient vu un reportage sur un supermarché coopératif et se sont dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça chez nous. Et depuis, c'est 4 équivalents temps plein quand même salariés dans ces 3 initiatives.
Et ça n'est pas rien pour la vivacité, pour le dynamisme du village. Vous évoquez aussi une boutique normande, dont on a parlé d'ailleurs dans cette émission. C'est à Notre-Dame de Courson, dans le Calvados.
Oui, ce sont à l'origine des aviculteurs. Donc, ils faisaient de l'élevage de volailles rustiques. Ils en font toujours, d'ailleurs. C'est leur métier de base. Et ils étaient désespérés qu'il n'y ait plus d'épicerie dans leur village. Ils ont racheté une belle maison en briques au cœur du village. On est dans le Pays d'Auge, en Normandie. C'était une maison qui faisait quand même déjà épicerie jusque dans les années 70, ils ont eu un vrai coup de foudre et ils ont décidé de réinvestir ce lieu pour en faire à nouveau une épicerie avec un maximum là encore de produits locaux, hein, c'est souvent le cas, et puis 30% qui sont moins locaux mais qui dépannent en fait les habitants. Et l'essentiel pour eux, c'est pas tant d'avoir une rentabilité de cette boutique, c'est d'arriver à l'équilibre, mais surtout de faire vivre leur village.
Alors voilà, vous avez mis le doigt sur des éléments importants, la rentabilité et le consommer local. Finalement, ces épiceries associatives dans les villages, ce sont des lieux de rencontre, des lieux de mélange entre les générations aussi bien sûr, mais aussi des lieux de réflexion sur notre alimentation finalement.
Oui, il y a une vraie évolution. C'est né, hein, surtout, ça s'est renforcé plutôt dans la période Covid, hein, où on s'est dit, mais il y a besoin de services de proximité. Et heureusement, pour arriver à mettre ça en œuvre, il y a quand même aujourd'hui des structures, des dispositifs qui aident. Je pense à l'association citoyenne Bouge ton coq, hein, qui a été lancée en 2020. C'est un mouvement citoyen qui s'est fixé comme objectif de déployer un peu partout en France des centaines d'épiceries participatives. C'est ambitieux, mais ça fonctionne peu à peu. Il y en a un peu plus de 250. Compte d'ouverture maintenant, et peu à peu donc ça prend vie un peu partout dans toutes les régions, et ils accompagnent pour permettre à ces collectifs de s'organiser, parce que c'est pas évident, hein, savoir comment on fait la gestion de stock, les achats, etc. Et ils mettent à disposition un logiciel notamment pour simplifier toute la vie du quotidien d'une boutique. Et donc ce sont aussi des outils qui aident vraiment au lancement de ce type d'initiative.
Voilà, l'association Bouge ton coq, finalement elle permet d'essaimer un modèle d'épicerie participative qui fonctionne, et de le dupliquer un peu partout en France.
Tout à fait. Et puis en même temps, ils se sont associés à un projet universitaire qui s'appelle Terroir, pour étudier ce que donnent sur le terrain ces nouvelles façons de consommer. Qu'est-ce que ça produit localement? Qu'est-ce que ça donne pour les agriculteurs? Qu'est-ce que ça donne pour les citoyens? Donc ils ont lancé une grande étude dont on verra le fruit des travaux des universitaires. C'est l'Université Lyon 2 de géographie qui s'occupe de ça. Travaille avec eux pour voir ce que ça produit sur le terrain. On aura les résultats, je pense, d'ici juin-juillet.
Les épiceries jouent l'ouverture, dossier à lire donc dans le nouveau numéro du magazine Village. Et on vous retrouve dès demain, Sylvie, pour se pencher sur un autre article de ce même magazine. Merci, à demain.
Merci Dorothée, à demain.
J'ouvre la boîte mail des carnets de campagne. Voici le message de Benoît qui fait écho à ce qui vient d'être dit, auditeur du Tarn-et-Garonne. Le café Le Puits du Jour à Lozerte mérite toute la lumière, dit-il. C'est une pépite locale. Ce lieu est littéralement le cœur vibrant des environs. Si nous ne l'avions pas, on s'ennuierait sacrément. Le jeudi soir, soirée ciné. Le vendredi, scène ouverte aux musiciens locaux. Le dimanche, de la musique live. Et ce, tout au long de l'année. C'est une bénédiction, conclut Benoît, pour la vie culturelle de notre village rural. Le Puits de Jour, c'est à Lozerte, en Tarn-et-Garonne. Sachez que les départements de l'Oise et de l'Aveyron seront bientôt à l'honneur. Vous pouvez nous écrire pour signaler des gens géniaux dans ces départements du côté de Beauvais et de Rodez.
France Inter. Carnet de campagne.
En musiquons-nous, en chantons-nous. Voilà une proposition alléchante. Ce festival tout jeune, il a été créé l'année dernière, propose des concerts chez l'habitant, dans le salon ou dans le jardin. Bonjour Lionel Quillet.
Bonjour.
Vous êtes à Fignan dans le Tarn-et-Garonne, professeur des écoles à la retraite. Vous êtes aussi musicien et chef de chœur. Vous avez créé l'association Musiqueur qui organise ces fameux concerts à domicile. Alors ce festival, en musiquons-nous, en chantons-nous, ne se déroule pas sur quelques jours, hein, mais il s'étale toute l'année. Comment se déroulent les concerts, Lionel ?
Alors, on prend des contacts avec des artistes qui sont OK pour venir dans ce genre de choses, et on trouve des points de chute, c'est-à-dire des salons, des jardins, des gens qui veulent bien nous accueillir. Et j'ai été très étonné de voir combien d'habitants de notre petit village, on a 1600 habitants, donc c'est pas énorme, et étaient volontaires pour recevoir ce genre de programmation.
Qu'est-ce que ça change d'assister à un concert chez quelqu'un plutôt que dans une salle de concert ?
C'est-à-dire que, alors ça a changé des choses dans la mesure, même des gens, des Fignanais, des gens qui habitent Fignan, se sont dit, mais voilà, il y avait des gens de Fignan que je voyais comme ça, mais j'avais jamais parlé avec eux. Et alors on a écouté le concert, après on s'est mis autour d'une table, parce qu'à la fin du concert on fait une auberge espagnole et on mange tous ensemble, et on s'est mis à parler entre nous, parler avec l'artiste, on a appris à se connaître finalement.
Ça fait du lien, tout simplement.
Eh ben, je trouve, oui.
Et d'ailleurs, pour assister au concert, on est obligé de venir avec quelque chose à boire ou à manger, c'est ça ?
Ah ouais. L'entrée, c'est 10 euros et quelque chose à boire ou à manger.
La prochaine date, autant prévenir, est déjà complète, hein, mais il y en aura d'autres. C'est ce week-end et c'est un concert de harpe, c'est ça ?
Tout à fait. Une harpiste, Marie Conant, qui a appris la harpe sur Rennes, au Conservatoire de Rennes, puis après qui a travaillé avec la soliste de l'Orchestre du Capitole à Toulouse, qui est quelqu'un qui draine beaucoup de monde derrière elle, qui est très talentueuse. Donc on se régale de la voir venir chez nous.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce festival est tout jeune, mais est-ce que vous avez déjà un souvenir marquant à me raconter, Lionel ?
Ben, on en a plein. On a plein déjà de souvenirs. C'est vrai, toutes ces personnes qu'on a rencontrées, discuter avec une auteure-compositrice comme Lise Martin, par exemple, qui nous a parlé de sa manière d'écrire, des relations avec d'autres musiciens, etc., son accompagnateur qui était là. Et puis les gens, les spectateurs qui venaient poser plein de questions. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions. Parce que jusque-là, le côté culturel, les concerts qu'on programmait sur Filian, qu'on a essayé de faire dans la salle des fêtes ou autre, ça marchait pas trop bien, il n'y avait pas trop de public. Alors que là, on voit qu'il y a des gens qui sont très intéressés. Et puis, on a des habitués maintenant, hein, qui nous demandent régulièrement à quand la prochaine date.
Ah, c'est intéressant, ça. À la salle des fêtes, ça marche moins bien que chez les gens, finalement.
Exactement, exactement.
Dites-moi, Lionel, nous avons parlé de Filian déjà cette semaine, hein, parce que le Magma y est installé. C'est un musée qui expose des affiches, des vinyles et des tas d'objets de collection autour de la musique. Il y a 1600 habitants à Filian, donc c'est un gros village, mais c'est un village tout de même. Comment est-ce que vous expliquez cette énergie musicale ?
Alors, je crois qu'il y a eu des circonstances comme ça. Christophe, là, qui s'occupe du Magma, qui est un ami, hein, est venu s'installer là parce que le bâtiment lui convenait pour organiser justement ce qu'il souhaitait créer depuis un moment. Il était basé sur Toulouse avant et il cherchait un bâtiment plus vaste avec du terrain autour. Donc, il est venu s'installer là. Nos chemins se sont croisés parce que moi, j'étais à la mairie à cette époque-là, puis le maire, qui me connaissait un petit peu mes compétences en musique, m'a dit « va donc le rencontrer pour discuter avec lui, pour voir ce que ça peut faire ». Donc on s'était rencontrés, puis on s'était liés d'amitié, voilà. Et puis bon, bah moi, j'étais donc enseignant, j'ai fini ma carrière comme conseiller pédagogique en éducation musicale, donc j'étais aussi très porté sur la musique, et très porté sur la musique à la portée des gens. Essayer de la mettre très facilement à la portée des gens.
Et ça marche avec ce festival ?
Ah oui, ouais. On est plutôt enthousiaste là, oui, effectivement.
Comment financez-vous vos concerts, Lionel ?
Ah. Alors, il y a les entrées. Jusque-là, on était un petit peu serré. Quand on avait fini de payer les artistes, la SACEM, tout ça, on s'est un tout petit peu endetté, donc on a mis un peu tous la main à la poche. Mais là, j'ai fait des demandes d'aide au conseil régional, à la mairie aussi. J'espère qu'on va être suivi et que ça va nous aider à voir l'avenir avec optimisme.
Bon, puis le problème des concerts chez l'habitant, chez l'habitante, c'est la jauge, hein. Forcément, c'est des petites salles.
Exactement. C'est des petites salles, tout à fait, tout à fait.
Ça fait partie du charme.
Ouais, parce que il y a une espèce d'intimité autour du concert. On n'a pas dans une grande salle, c'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive dans une salle de spectacle. Alors que là, c'est chaleureux, quoi. Tout de suite, on se trouve dans un milieu qui est plus favorable à s'épanouir, à s'ouvrir à l'autre et à l'écoute en plus. Ouais, tout à fait. Enfin, je pense, oui.
En musique, en nous, enchantons-nous. Festival organisé toute l'année par l'association Musiqueur. C'est à Filian, dans le Tarn-et-Garonne. Merci beaucoup, Lionel Quillet.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Pareillement.